Vous écoutez France Culture.
Je veux que tout change.
Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Vous pouvez rencontrer la radio, en chair et en os, la voir, lui parler, l'observer. C'est l'équipe de Radio Campus qui a imaginé cette rencontre, au Festival Brouillage, à la Loge à Paris. Un festival à voir et à écouter. On peut fermer les yeux, les réouvrir, les fermer, les réouvrir. Ça commence mardi et ça dure jusqu'au week-end. C'est de la radio et du spectacle vivant, de la radio vivante donc. Et c'est fou ce que l'on peut faire avec des ondes et une scène, du son et des corps. L'équipe du festival sera là dans la seconde partie de l'atelier du son pour nous en parler. Mais avant ça, les sons vont prendre corps et Thomas Tilly s'installe aux côtés de Thomas Baumgartner. Créateur sonore, musicien autodidacte venu de la noise, il aime utiliser le microphone. Il aime capter des petites choses et faire des gros plans, les augmenter, les révéler. Il enregistre les sons de la nature pour nous faire entendre à quel point elle est forte. Le vent dans les feuilles, si on écoute, si on pousse le haut-parleur, si on approche le micro, le vent dans les feuilles, vraiment, ça a son petit côté symphonie.
Bonsoir à vous. On pourrait dire que Thomas Tilly se situe à mi-chemin du figuratif et de l'abstrait. En son, c'est un mélange qui s'entend. En son, ce drôle de mi-temps, ce drôle d'équilibre, se trouve en nous faisant entendre la nature, le réel, par le biais de sons inattendus, sons cachés, sons qui ne disent pas leur nom, des sons minimaux mais agrandis, des vibrations discrètes, quand la nature fait de l'électroacoustique sans le savoir, par exemple. Bonsoir Tomatine.
Bonsoir.
Considérez la nature comme un instrument de musique, c'est ce que vous faites ?
Oui, oui. Alors peut-être plus que la nature, le microphone,
ouais,
comme un instrument
qui
de musique.
Qui capte la nature ?
Qui capte la nature, qui capte souvent la nature, hein,
ouais,
pas que. Le considérer comme un micro et considérer l'enregistrement et le placement de ce micro dans l'environnement comme une possible méthode de composition de la musique. Voilà. Se déplacer, chercher, passer beaucoup de temps à écouter dans un premier temps, avant d'appuyer sur REC.
Être soi-même le micro, c'est possible ça?
Ouais.
Avant de le placer lui-même?
Je pense que ça peut pas passer sans ça. Mm-hmm. Ce travail d'écoute, de réapprentissage constant d'une zone sonore, pour ensuite essayer de se placer et de capter des choses, d'essayer de placer comme un panier pour que les choses tombent dedans, sans trop savoir à quoi s'attendre exactement, mais souvent en spéculant sur ce qu'on peut attraper.
Mais cette spéculation-là, c'est un geste de compositeur?
Je pense que le geste de compositeur, il est entre cette spéculation et l'écoute qui la précède. Le geste de compositeur, il va être d'une part de définir une focale, de trouver un endroit où se poser pour enregistrer le son. Et puis après, il va être de faire des choix. C'est ce qui quand même détermine la composition de toutes les musiques, c'est de faire des choix. Donc évidemment, ce choix se termine, s'articule en studio, où on va écouter longuement les choses pour finalement définir un passage où mes oreilles semblent trouver qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Voilà.
Alors c'est ce que vous avez fait notamment sur ce disque Script Géométrie qui sort ces jours-ci.
Qui sort, qui est tout frais, qui vient d'arriver, ouais. Qui sort officiellement le 16 avril chez Aposiopez.
Voilà, donc ça c'est la semaine prochaine, mais c'est des sons que vous avez enregistrés il y a quelques mois maintenant. Vous avez déjà présenté, notamment l'année dernière, au Confort Moderne à Poitiers. Ce qu'on vient d'entendre là, c'était un extrait de ça, de Script Géométrie. C'est une histoire de voyage, Script Géométrie.
Alors oui, c'est une histoire de voyage, puisque l'entièreté de ce travail-là a été réalisée au Nourag. Les Nouragues, c'est une zone de forêt primaire qui est classée en réserve naturelle totale, qui est en Guyane, en Amazonie guyanaise. Et tout le travail de captation, qui a duré 30 jours et 30 nuits, s'est passé sur les stations de recherche du CNRS Guyane, là-bas. Voilà.
Donc vous avez travaillé avec des scientifiques, aux côtés de scientifiques?
Aux côtés de scientifiques, oui.
Guidés par eux?
Guidés par eux, oui, dans un premier temps. C'était d'ailleurs partie intégrante du projet, en fait. Le fait de pouvoir accéder à ce genre de... à ce genre d'outils que sont les stations de recherche pour pas me perdre dans un environnement que je connaissais pas et pouvoir à la fois bénéficier de conseils, de moyens pour travailler in situ à toute heure du jour et de la nuit, ce que les stations permettent, et puis pouvoir échanger en fait sur l'écoute notamment, parce que il se trouve que la plupart des chercheurs qui viennent travailler là-bas, alors c'est une base internationale, c'est-à-dire qu'elle accueille des groupes de chercheurs du monde entier. Beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les grenouilles, les insectes ou les chauves-souris, et les oiseaux évidemment. Et ces gens-là travaillent énormément à l'écoute. Donc ce travail finalement comparatif entre nos deux écoutes était partie intégrante du projet et très intéressant.
Vous voulez dire qu'il y a une écoute scientifique? C'est vrai qu'il y a des chercheurs qui travaillent, qui étudient la biodiversité, par exemple, à travers le son de ce type de forêt, comme la forêt amazonienne. Et puis, d'un autre côté, votre approche à vous, vous qualifiez, j'imagine... Alors vous, esthétique, non, c'est pas le mot, ça voulait pas le mot esthétique, je crois. Mais artistique, on peut dire ça comme ça.
L'esthétique me dérange un peu quand on parle d'environnement sonore. Enfin, la volonté, en tout cas, de tomber dans une esthétique me dérange un peu, dans la mesure où j'aime à croire que c'est le lieu qui draine les choses à chaque fois. C'est pas toujours vrai, c'est pas toujours possible. Mais voilà, j'essaye de tirer les choses dans ce sens. Une écoute scientifique, oui, il y en a une. À savoir que pour eux, le son est souvent une des seules manières de pouvoir trouver une espèce dans la densité de la forêt. Mm-hmm. Voilà. Donc ils travaillent beaucoup à l'écoute. Et ils sont assez étonnants, d'ailleurs, là-dessus.
Et vous avez-vous appris des choses qui vous servent dans votre travail aujourd'hui, à travers ce travail-là?
Oui, forcément, parce que y a beaucoup de recherches, par exemple, qui sont faites sur le son des amphibiens. On apprend qu'au sein d'une même espèce d'amphibien, chaque individu de certaines espèces va avoir une tonalité qui le différencie. Mmh. Donc ça, c'est par exemple des choses que je pouvais ignorer. Y a des recherches qui sont menées sur la conscience du sonore de certains batraciens, donc ça, c'est quand même aussi assez étonnant. Et après, d'une manière plus large, quand on arrive dans une zone comme ça pour la première fois, en venant d'Europe, on doit réapprendre à écouter tout ça. Et les premiers jours, je ne sais pas si ce que j'entends est un oiseau, une grenouille, un insecte ou autre. Donc déjà, en passant du temps avec eux, on peut commencer à comprendre une certaine organisation du sonore du lieu, voilà, qui est très complexe en fait.
Vous avez aiguisé votre oreille aux côtés des scientifiques du CNRS dans la forêt amazonienne?
Oui, alors après, aiguiser son oreille, finalement, c'est un peu mon travail aussi, quoi. À chaque fois que je réalise une session d'enregistrement, une session de terrain, Là, on est dans un environnement qui est tellement étonnant, merveilleux que... Bon, oui.
Alors, ce qui est étonnant avec ce travail Tomati, Script Géométrie, c'est qu'à la fois, effectivement, il y a la valeur artistique, c'est de field recording, de, tel que vous la présentez, tel que vous la montez, tel que parfois vous la mixez. C'est la partie de ce travail-là, évidemment, a sa valeur. Et puis, vous dites aussi... Écoutons la nature comme elle fait de l'électroacoustique, comme elle fait une forme de musique expérimentale sans le savoir, et vous établissez des ponts avec l'histoire aussi les pratiques actuelles de la musique expérimentale.
J'ai systématiquement besoin de portes d'entrée, en fait, pour aborder un terrain, pour aborder un lieu, et en fait, la question de l'analogie me fascine assez. Déjà parce que c'est souvent une porte d'entrée que peut avoir le public pour percevoir ces musiques-là. On trouve que ça ressemble à ça, ou que ça, voilà, ça sonne comme ça. Là, la porte d'entrée pour ce travail, c'était vraiment de me dire je vais être dans une zone complètement vierge de vie humaine, d'impact humain, une zone pleine d'animaux, et je vais l'étudier comme une ville, avec ses heures creuses, avec ses heures pleines, et en essayant de en fait, travailler sur ces choses qui, moi, me font penser à l'électronique et à l'écoute de l'électronique. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Et après, le travail d'enregistrement et le travail de pose des micros dans l'espace fait un peu le reste, quoi. C'est-à-dire que on se retrouve à capter tout un tas de choses qui nous confortent ou pas, hein, aussi, des fois, mais dans cette idée-là. Donc ça, ça a été vraiment mon axe de travail sur ce projet-là.
Et ça a été une manière d'en parler aussi au public, parce qu'il y a toute une partie de votre travail qui est de faire entendre publiquement.
Ouais.
Et ces ponts-là, ces portes d'entrée dont vous parlez, vous les offrez aussi au public. Donc il y a cette démarche, ce mouvement-là aussi que vous offrez dans les écoutes publiques. Je propose qu'on essaye quelque chose justement de cet ordre-là, avec un autre extrait de Script Géométrie, Unidentified Insect Colony. Donc voilà, on comprend, ce sont des insectes, et vous les captez, et ça donne ça. Automatique, vous présentez ça comme une phonographie ultrasonique. C'est quoi une phonographie ultrasonique ?
Donc, phonographie, c'est un enregistrement sonore qui n'a pas été retouché du tout. Donc, il n'y a pas de traitement électronique. Il y en a un petit, mais qui est nécessaire à notre perception. On va en parler après. C'est un enregistrement qui n'a pas été retouché, donc, ni transformé, ni monté. Et ultrasonique, c'est qu'il a été capté dans le spectre ultrasonique, donc des fréquences trop aiguës pour que l'oreille humaine puisse les percevoir.
Alors vous mettez où le micro pour entendre ça ?
Alors le micro, en fait, est un peu plus qu'un micro, puisque c'est à la fois un micro et un transcripteur de ce que le micro peut capter. Ce sont des outils qui sont à la base des outils scientifiques, justement, qui sont utilisés pour enregistrer les chauves-souris, et que moi je m'amuse à dériver. Et à certains moments, dans la forêt, donc je l'ai mis dans le sol, je l'ai mis dans la terre, je l'ai mis dans les feuilles, tout un tas d'endroits. Et je me suis rendu compte qu'à la même heure, sur un même espace de forêt, à peu près à la même heure, je pouvais entendre ça. Donc là, on est dans des sons qui sont naturellement générés aux alentours de 35 kHz, quelque chose comme ça. Le transducteur, lui, les ralentit pour que nous puissions les percevoir.
C'est la manipulation dont vous parliez
voilà.
À l'instant. Nécessaire.
Qui est faite sur le terrain, en fait, par la machine elle-même, et qui est nécessaire à notre écoute, puisqu'on ne peut pas le percevoir.
Et vous êtes sûr que ce sont des insectes ?
Alors, on a échangé un peu avec les gens du CNRS, justement, là-dessus, parce qu'eux n'avaient pas entendu, par exemple, ça. Sachant que ce genre d'équipement est toujours appliqué aux chauves-souris, enfin, souvent appliqué aux chauves-souris, mais a priori, rarement détourné de leur utilisation première. Et on en est arrivé à la conclusion quand même que voilà, c'était très très probablement des insectes, des sons d'élytres d'insectes.
Et alors, ce qu'on voulait vous proposer, c'est d'écouter une pièce, un extrait d'une pièce de Lamont T. Young avec John Cale, milieu des années 60, Day of Niagara. Vraiment un extrait, donc Lamont T. Young et son groupe dont faisait partie John Cale, avant de cofonder le Velvet Underground, ça s'appelait Theater of Eternal Music et Day of Niagara, c'est ça.
Thank you.
En écoutant pas mal de vos enregistrements, Tomati, on entend un drone ou un bourdon, voilà, parallèle avec un nom d'insecte, un drone ou un bourdon naturel et qui est une forme d'écriture de la musique, grosso modo depuis la période moderne, depuis les années 50, et qui est vraiment quelque chose de caractéristique de la musique expérimentale. Ce type de parallèle, de pont, vous l'acceptez ?
Complètement, oui. Ouais. Complètement. De toute façon, moi, tout ce que je fais est rattaché à la musique. Je travaille vraiment dans une idée de composition et de recherche sur la musique, donc si un parallèle se crée avec ça, oui, évidemment. Évidemment. Je suis assez fasciné par cette idée que des biotopes, sans doute vieux depuis des dizaines, centaines de milliers d'années, peuvent se rapprocher dans leur production sonore de choses qui sont finalement complètement propres de l'ère technologique. Voilà. Ça, c'est une idée que j'aime beaucoup. C'est un nœud, en fait. Hein. C'est toujours un questionnement. Je n'ai pas plus de réponses que ça. Mais en tout cas, il y a une vraie fascination pour cette idée-là. Ouais.
Il y a un chercheur californien, Bernie Cruz, qui dit que les premiers sons telluriques sont l'origine de la musique.
Oui, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ça se vérifie sur plein de... Il y a plein de travaux qui confortent un peu dans cette idée-là.
Voilà. Alors... Une autre porte d'entrée de votre travail, Tomati, ce sont les lieux. Parce que quand vous faites, quand vous enregistrez, quand vous créez du son, vous ne le faites pas n'importe comment selon le lieu. C'est-à-dire que le lieu est fondamental et vous allez capter même la vibration parfois du lieu même.
Oui. Alors, le lieu est rarement le sujet, ouais. Finalement. Mais il est, encore une fois, un cadre, des fois très contraignant, mais tant mieux, pour aborder un propos. Voilà. Et une idée. Donc effectivement, je n'ai pas pour habitude de mélanger des sons de toute provenance. D'ailleurs, je ne fonctionne même pas comme ça dans mon travail, sur mes sessions de prise de son. Je flâne assez peu, finalement, avec les micros. Par contre, faire du repérage, trouver un endroit qui m'intéresse et qui me permette d'aborder des problématiques qui me sont chères, voilà, ça me plaît.
Et les problématiques, est-ce que ce sont des problématiques liées, puisque là on parle quand même de notamment sur Script Géométrie, donc captation du son, des bruits, y compris souterrain, de la forêt ou inaudible à l'oreille humaine, est-ce qu'il y a un propos au premier plan écologique ?
Pas forcément, non. Je me sens pas très rattaché ni très en phase avec l'idée de l'écologie sonore et tout ce courant-là. Moi je viens finalement plutôt de la musique industrielle dure, hein, dans mon écoute de la musique. La relation au lieu que je vais choisir ou aux espaces vient plutôt du fait que j'ai tendance à penser que le son croise absolument toute idée et tout type d'idée. Travailler sur un bâtiment, c'est aborder des problématiques sur l'architecture, sur les murs, sur la vibration, sur un espace, sur... pourquoi pas un contexte social ou autre. Voilà. Donc ça va être pour moi vraiment la porte d'entrée, le socle d'une proposition, d'un travail.
Mais vous parlez même de la question de l'urbanisme et du son. Ça, c'est intéressant aujourd'hui. Déjà, est-ce qu'on réfléchit à l'urbanisme ? Ça, c'est une question générale, politiquement. Mais est-ce que la question du son est présente ? Est-ce que vous trouvez, vous, des oreilles attentives du côté des urbanistes pour parler de son ?
Je me pose la question. Je me demande si c'est possible, en fait. Ouais. Je me demande si c'est possible. Souvent, quand on parle de son et d'urbanisme, on arrive dans des démarches qui sont du pur design sonore, qui interviennent, je trouve, souvent en fonction de l'époque, du moment, et qui seront probablement désuètes très vite après. Donc je ne sais pas, en fait. Je me pose vraiment la question de cette relation entre l'urbanisme et le son. Je ne sais pas si on peut régler le problème. Alors, on va en général, dans la démarche de la réduction du bruit, bon, c'est une chose. Mais comment aller au-delà, comment, je ne sais pas, en fait.
Mais ça fait partie de votre démarche quand même, vous posez la question.
Ça fait partie de ma démarche quand, par exemple, dans une pièce, je vais aller travailler sur un bâtiment, une salle de concert, qui est volontairement écartée d'un centre-ville, pour ne pas faire de bruit et pas gêner le monde. Qu'on va faire ça avec des murs extrêmement épais pour vraiment clore ce truc-là, loin des... Là, ça fait partie de mes préoccupations.
Et c'est ce que vous avez fait aux Instants Chavirés, qui est une salle à Montreuil, non ? Vous aviez mis des micros qui captaient le...
Alors oui, aux Instants Chavirés, oui, c'était pour une exposition où j'avais travaillé un petit peu sur le son de la galerie en lui-même. Hein, et sur le rayonnement magnétique de néon qui était présent dans la galerie naturellement. Ça m'est arrivé de pousser plus loin ces processus-là, notamment sur une salle de concert, voilà, dans l'est de la France, à Reims, à la Cartonnerie, où vraiment là j'ai travaillé sur le bâtiment, sa vie, la manière dont il respire, parce que je fais le point inverse finalement. Mmh. Hein, je passe d'un lieu extrêmement froid, extrêmement moderne, pour l'écouter respirer. Donc on arrive sur quelque chose de plus organique au final, je trouve. Donc sur ce projet-là, voilà, j'ai quand même poussé beaucoup plus loin le processus, en m'intéressant à la fois à la vie du bâtiment, la manière dont il respire, en utilisant aussi la musique qui est diffusée à l'intérieur, mais en utilisant que les déchets de cette musique, finalement. Mm-hmm. Ça m'amusait aussi.
Mais il y a quelque chose d'intéressant, ça rappelle la démarche d'un artiste qu'on a pu rencontrer à Berlin cette année, Jakob Kierkegaard, qui habite à Berlin, qui capte les vibrations des lieux, qui les grossit, qui les amplifie, qui les réenregistre, au point qu'on a l'impression qu'il y a une recherche d'une dimension invisible, d'une quatrième dimension sonore qui serait en recherche là, à la limite, aller chercher les fantômes du son. Est-ce que vous êtes, vous aussi, dans cette démarche-là? L'idée d'aller, comme on le dit, les insectes qu'on entendait à l'instant, aller chercher l'infrason, l'invisible à l'oreille, et là, on trouve quand même une autre dimension.
Oui, ça vient. Alors, dans mon cas, ça vient d'une manière de considérer l'environnement sonore. Je ne peux pas percevoir l'environnement sonore comme il est défini par les humains, la plupart du temps, c'est-à-dire ce qu'on perçoit à l'oreille. Le son se déplace dans tous les milieux, donc ça va beaucoup plus loin que ce qu'on entend, ce qu'on est capable d'entendre. Donc il y a une relation au macro, effectivement, de devoir zoomer, de devoir chercher des choses qu'on ne perçoit pas à l'oreille, et de faire prendre conscience aussi de toute cette physicalité potentielle de l'environnement sonore. Amplifier la vibration d'un bâtiment, on est vraiment dans ce rapport-là. Mmh. Voilà.
Ou par exemple, aller chercher, encore une fois, tiens, des insectes dans les douves d'un château à Sanzé, dans les Deux-Sèvres, qu'est Bellensize. Qu'est-ce qui vous a guidé ce jour-là, Tomati, vers cette vibration dans les douves de ce château où vous travaillez? Donc, ce sont des lieux qui font appel à vous pour que vous travailliez in situ.
Alors ce qui m'a guidé sur le lieu, en premier, c'est mon frère qui fait de la photographie et qui a l'habitude de travailler là-bas. Donc, je suis venu avec du matériel d'enregistrement. Ça fait plusieurs années maintenant que je scrute un peu les différents points d'eau douce un peu partout, pour m'être rendu compte qu'on pouvait observer un peu des phénomènes sonores assez étranges de ce type. Et là, j'ai juste eu, je crois, à faire un idéal moment de phonographie. C'est ce moment où on trouve le lieu, on est à l'aise dedans, on a le matériel pour travailler, on a le temps de le faire.
Ouais.
Et voilà. Et on se laisse aller une semaine, à raison de 5-6 heures par jour au bord de l'eau, à poser un hydrophone juste sous quelques mètres carrés de lentilles dans les douves de ce château.
Un hydrophone, c'est un micro qui va dans l'eau?
Ouais, c'est ça. Mmh. Un micro pour les milieux aquatiques. Et donc j'ai enregistré, de manière assez fascinée, du coup, par la variété de sons qui pouvaient se produire. Et j'ai observé aussi tout un tas de choses assez étonnantes. là, dans ce qu'on entend, les variations du son, en fait, sont produites par l'ensoleillement du point d'eau.
Ah oui.
C'est-à-dire que quand la fréquence est haute, le soleil tape à plein sur la surface de l'eau et quasiment ne cesse de monter. Dès qu'un nuage passe devant, la fréquence ralentit. Donc là, il y avait en plus une interaction entre l'intérieur et l'extérieur que je trouvais assez étonnante. Et ce caractère des sons, quand j'entends ça, j'ai plus l'impression d'écouter des continuums de synthétiseurs analogiques qu'un insecte ou un animal. Et finalement, voilà, ce chouette moment de phonographie, c'est le point où j'arrive à me dire je ne suis pas assez balèze comme compositeur pour faire quelque chose qui m'intéresse autant.
La nature est plus forte.
La nature est plus forte. Mmh. Et de ramener ces sons en studio et de les réécouter vraiment de nombreuses fois, très longtemps, pour me dire, voilà, il y a 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes ici que je trouve vraiment très intéressant.
Ouais, qu'il faut sortir et faire entendre. Ouais. Et sur place d'ailleurs, dans ce château de Sanzay, vous avez fait entendre aussi, encore une fois, aux gens qui étaient là. Il y a un récit autour du son.
Oui. Ouais. Ben, en fait, cette session de travail et le disque qui est sorti à la suite, en fait, a provoqué l'envie des gens qui ont une association dans le château d'organiser un concert. Donc, je suis venu pendant une semaine ou deux pour travailler, pour refaire des captations, en fait, mais tout type de captations sur l'endroit et utiliser ces prises de son, voilà, que j'avais faites avant. C'est un cadre pour moi très intéressant et trop rare, celui de pouvoir faire un concert in situ, en environnement naturel, qui va être à la fois de diffuser des choses, mais aussi de placer des micros sur le lieu et de travailler sur un feedback à travers l'environnement, entre les micros. C'est un champ d'exploration. Voilà.
Qu'est-ce qui fait passer Tomati de la musique noise à la captation comme ça, in situ, à ce travail de compositeur par la nature?
Alors, je crois que, pour être tout à fait honnête...
Oui, allons-y, tant qu'à faire.
Allons-y.
Tant qu'à être là.
La première chose, c'était... moi, j'évoluais plutôt dans un milieu rock indépendant, rock dur, metal, hardcore, ce genre de choses-là. Et c'était la volonté de faire autre chose. De faire autre chose et d'envoyer un peu valdinguer des idées préconçues de la musique qui m'entourait à ce moment-là. Alors, c'est passé par plein de phases, hein, évidemment. On ne passe pas du metal... à ça, du jour au lendemain, mais par la découverte de la musique industrielle, de la musique contemporaine, de tout un tas de musiques électroniques très différentes, du dark ambient, de plein de choses par lesquelles je suis passé. Finalement, une passion pour cette autre appréhension du sonore, donc que je pratiquais à l'époque un petit peu comme je pouvais, sans jamais la faire écouter, avec des instruments de récupération, de l'électronique ou des choses comme ça. Et un jour, j'ai découvert, on m'a prêté un sampleur et un micro que j'étais obligé de brancher sur secteur. Donc j'avais un câble de 15 mètres et finalement, les premières prises de son se faisaient systématiquement par la fenêtre dans un rayon de 15 mètres.
C'est une contrainte comme une autre.
C'est une vraie contrainte. Peut-être que l'idée de la contrainte est un peu systématique dans mon travail.
Vient de ce câble initial.
Je ne sais pas, mais le fait de commencer à enregistrer des sons pour travailler avec m'a paru... voilà. Bien plus intéressant que ce que j'étais en train de faire et ce que j'étais en train d'essayer. Et cette pratique-là, c'est développée. J'aime beaucoup cette idée de travailler sur une matière qui est une espèce de puits sans fond. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas, on ne pourra jamais finir d'explorer l'environnement sonore sous toutes ses facettes. Et cette idée-là me fascine assez.
Et avec un petit peu de chance, il y a quelques insectes sur la surface du puits en question, donc ça aidera à trouver les premiers sons. Est-ce que vous connaissez ça, Tomati? Victor, une victoire. Un des rares enregistrements sur disque. Je crois qu'il y a eu très peu d'enregistrements de cet homme qui a enregistré le Luberon pendant des années, qui est mort au mois de juin dernier. Un Danois tombé amoureux du Luberon qui a passé son temps à faire des images. Ça s'appelle Image 1, ça date de 1972. Et voilà quelqu'un qui est allé au plus près de la nature avec son micro.
Oui, en fait, j'ai découvert son travail très, très tard. Il n'y a vraiment pas si longtemps, sachant qu'effectivement, c'est des travaux qui sont très, très, très difficiles à écouter. Hein. Ça n'a jamais été réédité, je crois. Ça ne le sera pas, d'ailleurs. Effectivement, ouais, il y a un bel exemple d'investissement dans l'écoute du lieu, qui était a priori un mode de vie hein, pour lui, un temps passé absolument incroyable à écouter, à enregistrer et à observer le comportement de l'environnement. Je pense qu'il avait, si j'ai bien compris, une démarche très très forte là-dessus, sur l'observation des mouvements du son et du comportement de l'environnement sonore en nature. Ça, c'est plutôt intéressant, en fait. Cette idée qui finalement rejoint, là, pour le coup, un peu l'écologie acoustique, mais cette idée analytique de l'écoute de l'environnement, là, m'intéresse, en fait. Ça, c'est un truc dans l'écologie sonore que je veux bien prendre.
C'est-à-dire ne pas enregistrer n'importe comment, enregistrer en fonction de la saison, du moment, de la nuit, du jour, c'est ça que vous voulez dire ?
Oui, alors ne jamais enregistrer n'importe comment, de toute façon, mais essayer de comprendre comment ça marche, pour finalement aller plus loin dans la prise de son. Et essayer de travailler, d'écouter la structure même de ce qui se passe à l'état naturel. Alors effectivement, en fonction des saisons, de tout un tas de paramètres. Mais voilà, ça m'intéresse beaucoup. Ouais.
Alors, ce qu'on a entendu là, manifestement, c'était du son très manipulé aussi.
Ouais.
Et Knut Victor n'hésitait pas à manipuler la bande magnétique, qui était son matériau d'enregistrement. Vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui compte beaucoup pour vous, c'est le son juste. Par exemple, sur la pochette de Script Géométrie, vous mettez quel son a été mixé, monté, à partir de quel moment il y a une intervention de votre part. Vous avez, vous, un idéal du son parfait, du son juste qu'on ne toucherait pas ?
75% de mon travail se passe sur le terrain. Et je pense que ça mérite d'être dit, en fait, cette chose-là, de ne pas vouloir tout recadrer, tout modifier, tout transformer. Il m'est même arrivé de laisser tomber des prises de son parce qu'il y avait des bruits de micro et il y en avait trop que je ne voulais pas enlever. Voilà, la prise de son m'intéressait, mais bon. Y a vraiment l'idée que ces formes musicales expérimentales peuvent exister à l'état naturel et que moi je suis là finalement pour les
encadrer,
pour les encadrer,
ouais.
Pour essayer de les encadrer et les proposer à l'écoute. Donc j'essaye de prendre un grand soin sur le terrain pour travailler sur toutes ces choses-là. Et voilà, je pense que c'est tellement partie intégrante du processus que ça mérite d'être appuyé. Il n'y a pas une idée de démonstration de spectaculaire derrière ça. Mais voilà, ça fait partie de mon travail. Il y a des photographes qui ne vont jamais recadrer leurs images. On en est un peu là, en fait.
Alors, il y a une chose qui vous continue de faire évoluer votre méthode de travail. Et sur un travail en cours, là, actuellement, vous, tout d'un coup, vous mélangez la captation et la production électronique de son, c'est ça ?
Ouais. Oui, en fait, c'est une première dans mon travail. J'avais des enregistrements réalisés il y a 4 ans, que j'aimais bien, qui étaient des enregistrements de ruches faits de l'intérieur, avec les micros placés à l'intérieur de la ruche. Et entre-temps, parce que je ne fais pas que de la prise de son de manière monomaniaque comme ça, j'essaye quand même des choses, même si je ne les montre pas ou si je ne les fais pas écouter. Mais voilà, il m'arrive d'essayer autre chose. Quand même. Et on m'avait offert une vieille table de mixage des années 60 dans un état assez pitoyable que je me suis amusé à boucler sur elle-même et à utiliser un petit peu comme un générateur de son, un synthétiseur très aléatoire. Et je suis retombé sur des sons insectiles. Finalement, qui sonnent encore une fois comme des animaux, comme des élytres. J'ai commencé à mélanger les deux, tout simplement, et à travailler. Encore une fois, on est un peu sur cette idée de travailler sur l'analogie entre des choses très, très modernes qui sont propres à notre époque et des sons beaucoup plus anciens.
Vous êtes constamment entre le primitif et le technologique, Tomati. J'ai l'impression que ça fait partie de vos deux pôles.
Ouais, j'ai pas réussi à choisir.
Non, mais c'est très bien, ça fait des beaux mélanges aussi. Et on est précisément dans le mélange, dans, dans cette nouvelle pièce, au sein d'une ruche. Donc il y a notamment une pièce qui s'appelle, c'est le nom global, Statics and Sours.
Ouais, c'est Statics and Sours.
C'est le titre de cette pièce en cours, c'est ça, c'est
oui,
en cours,
alors qui est terminé là, qui va être édité très prochainement. Oui, ce sont finalement des premiers essais, quoi. Peut-être une nouvelle porte de travail, je ne sais pas.
Encore. On va voir, on trouvera la porte et écoutons Statics and Sours, un extrait. Alors, où est l'abeille, où est le son synthétique? Voilà, ça c'est le jeu. Et puis, on peut même surtout, j'allais dire, écouter sans avoir à se faire son propre jeu de piste. C'est aussi
oui,
fait
ce
pour
encore,
se
ce
laisser
encore
porter.
Le mieux, hein. Ce qui est encore le mieux.
Comment va le label Fissure, Tomatine?
Alors, le label Fissure est en sommeil.
Ouais. C'est votre micro-label?
Ouais, c'était un micro-label qui était au départ destiné à sortir mes propres productions sans attendre d'avoir des propositions de labels, c'était pour diffuser mon travail. Pour l'instant, il ne s'y passe pas grand-chose. J'aimerais pouvoir éditer des disques, peut-être à partir de l'année prochaine. Plutôt éditer le travail d'autres artistes que le mien.
Et pour ceux qui veulent vous rencontrer, parler son ou même écouter certaines de vos productions, de vos propositions, vous êtes demain au Festival Sonore à Nantes. Qu'est-ce que vous allez faire écouter pour cette carte blanche?
Alors, on va travailler avec Dave Phillips. Mm-hmm. Dave Phillips, qui est un musicien, performeur basé à Zurich, qui travaille beaucoup sur les insectes dans les forêts d'Asie, dans les forêts d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Donc, ça va être une première rencontre improvisée de field recording, voilà, pour plusieurs haut-parleurs. Et il y aura également Eric Cordier qui sera là pour une diffusion de sa pièce aux Oresanes.
Et c'est donc au lieu unique, comme souvent?
Non, c'est à Trampolino.
Trampolino.
C'est à Trampolino, la fabrique.
Merci beaucoup d'être passé par l'atelier du son, Tomati.
Merci.
Nous avoir présenté votre travail. Restez, c'est pas fini.
Vous êtes bien sur France Culture dans le Kajibi du son. Nous venons d'écouter les 45 premières minutes de l'extrait intitulé « Symbiose atomique » à retrouver dans l'ouvrage « L'histoire de la création sonore au Bangladesh, 78 ans de combat acoustique en 23 tomes passionnants ». Pour en parler, je reçois Jean-Noël Carrington qui vient présenter son œuvre déjà tant controversée « Ça fait glouglou dans mon jardin ». Alors Jean-Noël, vous êtes designer sonore de renommée internationale, originaire de Philadelphie.
Ah, ok.
Ah, oui.
Well, hello everyone.
Jean-Noël, votre sublissime chef-d'œuvre vient de paraître aux éditions musicales Les Tréfonds du Tympan, un travail que nombreux critiques définissent déjà comme un modèle d'architecture acoustico-phonétique.
I'm not sure you listen my sound. First, I have understand nothing what you say.
Oui, le travail accompli relève essentiellement d'une rencontre auditive entre mon inconscient et la perception du réel de cet espace sonore quotidien nommé à tort bruit.
Hein?
Mais Jean-Noël Carrington, dans cette opacité sociale qui incombe à votre statut que j'appellerais sans flagornerie de goûteur d'acousticité, n'y voyez-vous pas là un défi, j'ose le dire, révolutionnaire?
What?
En effet, votre question est judicieuse.
I just make some bubbles in my bass, hein.
J'ai voulu tordre le réel totalitaire de cette corporalité descartienne, voire haussmannienne.
Oui, tout à fait. Mais alors, quid de la théorie des cordes?
Je pense pouvoir affirmer que la création sonore est mon véhicule à la fois axiologique et symptomatique, mais n'a de puissance immanente qu'en causalité critique.
But stop, I never say that.
Il est essentiel de faire comprendre au public que la saveur auditive s'expérimente au-delà de la naïveté de Louis.
Look at me.
Pour faire simple, mon objectif en tant que concepteur est d'atteindre un absolu périlimphique.
Look at my lips, they don't move.
Malheureusement, cette question ancestrale qui divise et stimule notre grande communauté mériterait de longues heures de débat. Mais nous n'avons qu'un créneau de 6 heures d'antenne devant nous.
Oui, c'est bien nous, c'est bien France Culture. À l'instant, c'était une parodie, mais oui, légère, de l'Atelier du son qui avait été diffusé pour les 50 ans de France Culture lors de la carte blanche à Radio Campus Paris. Là, c'était l'équipe de Radio Sympa à l'époque qui avait fait ça. Radio Campus Paris qui organise en ce moment, pour quelques jours, un festival avec un lieu en partenariat avec La Loge dans le 11e arrondissement de Paris. Évidemment, en ce moment, de nombreux avocats planchent sur la riposte judiciaire à ce pastiche. Mais en attendant, on va parler de ce festival. Brouillage, qui a un, enfin c'est pas un sous-titre, mais dans le descriptif du festival Brouillage, donc qui commence mardi et qui dure toute la semaine prochaine, on trouve ces mots-là. Quand la radio devient labo, quelques perturbations sont à prévoir sur les ondes. Ça a déjà commencé avec nous ce soir pour terminer l'émission. Mélanie Pécla, présidente de Radio Campus Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Il y a Corentin Cardraon, qui est directeur de l'antenne de Radio Campus Paris. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et à côté de vous, c'est Lucas Bonifay. Vous dirigez, co-dirigez. Oui. Artistiquement, La Loge, donc cette salle qui se trouve dans le 11e arrondissement, je l'ai dit, partenaire de, du festival Brouillage, partenaire parce que une salle de spectacle plus une radio, à cause de la radio en live. Ça, c'est un grand axe de ce festival qui s'est décidé lors sur un coin de table il y a quelques semaines et qui s'est monté très vite. C'est ça ?
C'est ça l'idée.
Mais ça marche aussi comme ça.
Oui, mais enfin tout à l'heure vous parliez de contraintes, mais c'était un peu aussi, enfin c'est né un peu de ça, c'est-à-dire d'une envie de prolonger des petites choses qu'on avait initiées ensemble avec Campus et nous-mêmes, et de partir du principe que nous, on fait du spectacle vivant, classique entre guillemets, ouais. Mais bon, les formes ne le sont pas forcément, de théâtre, de danse, de performance ou de concert, et d'imposer le fait que ce soit représenté en live, quoi, devant des gens, mais que ce soit en même temps retransmis en direct sur la radio, et que du coup ces deux contraintes-là réunies fassent qu'il y ait des objets un peu originaux qui naissent.
C'est ça, il faut qu'on soit à la fois content si on ne l'entend qu'à la radio et heureux si on le voit,
à la loge. Voilà. Ouais. C'était vraiment construit là-dessus, ouais, sur le festival Brouillage, qui du coup, le sous-titre un peu, c'est le festival à voir et à écouter.
Ouais.
C'était centré sur cette idée-là d'avoir une double vision du festival, quoi, de pouvoir aussi bien rester chez soi et l'entendre à la radio. Et de venir payer sa place pour venir voir le spectacle à la loge.
Voir et écouter tout en défendant l'idée d'une radio au laboratoire. Il y a l'idée d'invention, Mélanie Pécla ?
Il y a complètement l'idée d'une invention. L'idée, c'est on a beaucoup de chance, on a une bande FM. Il y a quand même beaucoup de gens qui aimeraient avoir une bande FM à Paris aujourd'hui, c'est pas facile. Et donc l'idée, c'est de profiter de cette chance qu'on a pour tester des nouvelles choses. Donc il y aura des choses un peu nouvelles sur la bande FM, mais aussi sur Internet, sur notre web. Parce qu'on a un streaming, parce qu'on diffuse qu'en demi-fréquence Radio Campus Paris à 17h30, 5h30 malheureusement. Mais en même temps, du coup, ça nous permet aussi de diffuser des choses sur le streaming. Donc on en profite un petit peu.
Oui, une antenne qui commence à 17h30, mais avec une matinale qui commence à 19h. C'est la matinale de 19h.
C'est tout à fait
c'est
ça.
C'est une des particularités de l'antenne. Mais là, pour le festival, peut-être donner à entendre, en tout cas, à deviner ce qu'il y aura à l'antenne et donc à la loge. Donnons un exemple.
Alors, des spectacles en particulier à la loge.
Voilà, spectacles, oui, absolument.
Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que pour la partie du programmation du festival, on s'est un peu séparé les choses sans forcément se le dire, mais la partie loge, finalement, a surtout été programmée par Lucas. On a proposé quelques pièces aussi. Et nous, on s'est plutôt occupé de la partie programmation antenne, vraiment, des choses avec toujours en filigrane cette idée du voir et de l'écouter. Même si les pièces diffusées uniquement à l'antenne qui ne seront pas à voir, du coup, à la loge, ne donneront du coup par définition rien à voir, mais on a toujours cette idée-là en filigrane, quoi, de trouver des pièces qui sont un peu dans l'entre-deux. Donc je sais pas si toi, Lucas, tu veux parler des pièces à la loge en particulier, mais
Ça part du principe un peu flou, enfin c'est un bien gros, mais c'est-à-dire qu'en gros on sait pas trop ce qui va être présenté étant donné que c'est des créations et que c'est un peu le principe global de la programmation de la loge, c'est que on propose un espace de liberté de créatif pour à des compagnies et à des équipes. Donc le principe c'est un peu ça, c'est qu'on a sollicité des équipes qu'on connaissait et qui pouvaient être sensibles et réactifs par rapport à un projet comme ça, avec pas mal de contraintes, même dans le temps et technique.
Exemple de programmation à la loge, je vois Voyage en Utopie Sonore, qui est signé Chloé Sanchez, Guillaume Michelon et Luca Pizzini. Donc là, c'est un projet autour d'Auroville, c'est ça, c'est cette zone en Inde qui est une zone d'utopie de vivre ensemble, et où Chloé Sanchez, Guillaume Michelon et Luca Pizzini ont enregistré.
C'est ça, c'est un projet qui voilà, du coup... Initiative de Chloé Sanchez, qui par ailleurs est bénévole aussi chez nous dans l'émission Récréation Sonore, tous les dimanches à 19h. Et du coup, voilà, Chloé allait enregistrer des sons à Auroville, donc du coup, cette cité utopique au sud de l'Inde. Et on a ramené plusieurs types de sons qui lui ont permis déjà de faire, d'une part, un documentaire de format assez classique qui a été diffusé, il me semble, sur France Culture.
C'était un sur les docs, absolument.
C'est ça, ouais, ouais.
Diffusé il y a quelques semaines. Et là, on est plus dans une forme d'immersion sonore.
D'immersion, et voilà, une recherche plus artistique, plus abstraite aussi de la matière sonore qu'elle a ramenée de là-bas. Et elle mélange, du coup, cette matière concrète, en fait, ces sons concrets qu'elle a ramenée de là-bas, avec un dispositif électroacoustique et aussi un flûtiste qui, du coup... joue de la flûte en direct et qui est retraité par le dispositif électroacoustique. Et tout ça se mélange du coup pour créer une pièce un peu hybride entre voilà, des sons concrets, des sons électroniques, des sons de la flûte. Et voilà.
Ça, c'est à voir le 18 avril, donc le vendredi prochain, à la loge à 20h. On ne peut pas faire comme si on y était, puisqu'il faut y être pour qu'on profite au maximum. Mais voilà un avant-goût.
L'avenir va nous l'apprendre, j'espère rapidement.
Oui, autrement dit, Auroville et les hommes nouveaux, c'est la porte ensemble.
Sans doute, c'est évident.
Vivre à Auroville, c'est compliqué. On est dans une machine à laver avec un essorage 2500 tours. Tu sors de là, t'es content.
Je vous conduis.
Et on a l'impression que dans tous les domaines, l'homme est comme en faillite, n'est-ce pas? Mais c'est une merveilleuse faillite. Quand tout a fichu le camp, il reste quelque chose.
Le festival Brouillage de Radio Campus Paris commence mardi sur l'antenne et à la loge, donc cette salle du 11e arrondissement, et dure non jusqu'à samedi, c'est ça, jusqu'au 19. Je vois sur le programme aussi, alors un nom étonnant, le nom de Vincent Moon, qui est plutôt connu pour un travail vidéo, souvent en ligne, un travail d'avant-garde, mais enfin qui a passé pas mal de frontières, justement lui, il a passé pas mal de frontières aussi, mais c'est pour un travail sonore, c'est ça?
Oui, en fait, il nous a proposé de faire quelque chose qu'il a fait d'ailleurs, qu'il a déjà présenté plus ou moins à la radio, qui est de... En fait, il collecte beaucoup de sons. Maintenant, il se spécialise de plus en plus dans des musiques vraiment très...
Une forme de folklore.
Ouais, voilà, une sorte de folklore. Enfin, il n'aime pas qu'on dise ça, mais bon, je... mais vraiment dans des régions partout dans le monde, il passe son temps à voyager. Et là, l'idée, c'est qu'en parallèle de ses vidéos, il est connu pour ça, c'est qu'il a fait le même travail, mais juste d'enregistrement sonore. Et à partir de là, il a fait une sorte de fiction et il travaille autour de ça. Et puis, il raconte un peu son vécu, un peu de la même façon que ce qu'il fait avec ses vidéos, mais avec un travail plus sonore pour le coup. Et après, oui, voilà, c'est assez libre pour l'instant. Je ne sais pas trop ce qu'il va présenter.
Mais c'est ça, on ne sait pas encore. C'est ça le mystère, mais on va découvrir ça. Lui, ce sera le 17 avril. Alors, Mélanie Pécla, il y a une génération, celle qui s'occupe de Radio Campus, qui manifestement s'intéresse beaucoup à l'expérimentation sonore, à l'expérimentation radiophonique, voilà, d'inventer de la radio sans aller dans des recoins obscurs, voilà, qui est une forme d'invention. Et là, vous soutenez aussi des innovations, des initiatives, en tout cas individuelles. Et je pense à une fiction. La fiction, Le cacao qui tue, qui est signé Hélène Martin et Sébastien Viau, qu'on va entendre sur l'antenne.
En fait, bah, c'est Corentin qui l'a programmé. Je vais peut-être te laisser en parler.
Corentin Cadraon.
Oui, bah alors il se trouve que voilà, Hélène et Sébastien sont deux anciens bénévoles de Radio Campus Paris, qui sont plus à Radio depuis très longtemps et qui ont ce projet qui mène depuis 4 ans, je crois, maintenant, cette fiction sonore, Le cacao qui tue. Qui est dans une ambiance, voilà, une ambiance de pirate, une ambiance un peu dessin animé, en fait, qui est assez chouette, avec un très beau travail d'enregistrement et de production et de mixage, avec une recherche vraiment sur la spatialisation aussi du son. Je crois qu'ils ont travaillé sur du binaural aussi, sur certaines prises de son.
Ouais, c'est le binaural plus Francis Blanche et Pierre Dac. C'est-à-dire, il y a un peu le mélange des différentes époques.
Il y a un côté, ça donne quelque chose de très... très amusant, très accessible pour la fiction radio. C'est un beau projet. Et du coup, pendant le festival, on va diffuser les 4 premiers épisodes de la série, puisqu'il s'agit d'une série d'épisodes d'une quinzaine de minutes environ, qui a pour principale plateforme de diffusion le web, en fait, tout simplement. Mmh. C'est voilà, sur le site internet Le cacao qui tue, qui sera la plateforme de diffusion. Et nous, on profite du festival pour lancer sur la bande FM les 4 premiers épisodes de cette série.
Mélanie Pécla, est-ce qu'il y a quelque chose qui... Il y a une nouvelle génération de gens qui ont envie de travailler le son ou tout simplement une suite qui se fait. J'ai l'impression que quelque chose se passe, moi, en ce moment, à Radio Campus, Paris en particulier, mais à plein d'endroits, et vous en êtes un peu l'écho.
Je ne sais pas s'il y a une nouvelle génération. Je pense que ça, c'est un peu dans la continuité. Nous, en tout cas, ça fait longtemps qu'on forme des jeunes étudiants ou pas forcément étudiants à la radio, aux techniques radiophoniques. Ça fait des années qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de candidatures, beaucoup de nouveaux bénévoles qui entrent chez nous.
C'est des candidatures pourquoi ? Pour faire des émissions, pour s'occuper de l'association ? Parce que c'est quand même un travail associatif.
C'est jamais important. Pour s'occuper de l'association. Autant le dire. Non, c'est toujours pour faire de la radio. Alors, il y a des gens qui viennent avec des projets d'émissions, effectivement. D'autres qui savent pas très bien ce qu'ils viennent faire ici, mais qui se disent, ah bah tiens, pourquoi pas, j'ai envie de voir un peu ce que ça donne. Il n'y a pas tant de gens qui rentrent pour faire de la création sonore, mais ça vient après. C'était mon cas, par exemple. Petit à petit, en pratiquant, en utilisant les outils de la radio, on se dit, bah tiens, j'ai un enregistreur, bah plutôt que d'aller enregistrer une voix, je vais peut-être aller enregistrer autre chose. Et finalement, on s'y plonge un peu par hasard, mais en tout cas, ça, c'est sûr que ça intéresse, vu le nombre de personnes qu'on reçoit chaque année.
Alors, il y a un projet, on parlait de la loge, donc une salle à Paris, il y a une autre petite salle qui est liée au Brouillage, une petite salle qui commence à se faire un nom, qui est l'Opéra Comique.
Oui, c'est une toute petite salle qui grimpe un peu. Ouais.
Voilà, et donc il y a un partenariat en cours avec eux.
Il y a un partenariat en cours
Radio
avec
Campus
eux.
Entre Radio Campus et l'Opéra Comique.
Effectivement, bah, donc, qui est né cette année avec une émission qui s'appelle 37.2. Qui est une émission de création sonore sur Radio Campus Paris et qui tend son micro à des inconnus. Donc là, l'idée, c'était d'aller tendre le micro à du personnel administratif de l'Opéra Comique ou des régisseurs, des techniciens, etc. Donc on va diffuser ces cinq portraits donc, sur 5 jours dans le cadre de 37.2. Voilà. Donc 15 minutes, ils auront 15 minutes de gloire pour des inconnus, c'est un peu l'idée.
Il y a aussi l'émission dont vous parliez à l'instant, Corentin Cadraon, qui est l'émission Récréation sonore, qui devient exceptionnellement quotidienne pendant le festival.
Voilà, qui va faire un petit focus sur, particulièrement sur des auteurs, enfin sur des livres qui traitent de création sonore. Du coup, voilà, ce sera chaque jour pendant le festival, un petit focus de 15 minutes avec une interview sonore, en fait, voilà, qui sera... Ils ont préparé une espèce de roulette sonore qui permettra d'interroger les auteurs de ces bouquins sur leurs livres et sur leur création.
Brouillage, donc le festival de Radio Campus Paris en partenariat avec La Loge. Ça commence mardi et ça dure jusqu'à samedi dans une semaine. Intruder 179 de Vincent Malassi. Vincent Malassi qui va proposer, ce sera quand ? Ce sera jeudi, une divulgation cinématographique à la loge. Qu'en est-il précisément ?
Ce que je sais, c'est que...
oui, c'est toujours le mystère, hein, ça se prépare.
C'est que, il travaille à partir de vinyle, en fait, et il retravaille des vinyles en direct, enfin, une sorte de travail qu'on peut apparenter à du mix ou du scratch, sauf que là, vraiment, il traficote un peu les machines, enfin, les vinyles en soi, et du coup, il en fait un objet, enfin, des sons... un peu expérimentaux. Après, concrètement, je ne peux pas en dire plus que...
Oh, mais quel teasing, ce soir, quel teasing.
Non, mais après, nous, on le connaît parce qu'il a fait des sons pour des spectacles. Et du coup, on a contacté une de ses équipes et il nous a sauté dessus en disant « Moi, je peux présenter mon travail que je fais autour du vinyle et du travail autour de cet objet, de ce matériau. » Donc, voilà.
Ouais, Vincent Malassi qui est à mi-chemin, ouais, d'un travail narratif, on va dire, et d'un travail abstrait, d'une certaine manière qui recoupe un peu ce qu'on disait ensemble avec vous, Tomati, tout à l'heure. C'était un nom qui vous dit quelque chose ?
Oui, je connais, ouais, je connais Vincent. Ouais.
Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous ce soir. L'équipe donc de Radio Campus Paris et de La Loge pour le festival Brouillage à partir de mardi. Merci Tomati d'être passé par ici. Encore une fois, demain au festival sonore au Trampolino, c'est ça ?
C'est ça.
Et pour en savoir plus, de toute façon, il y a la page de l'Atelier du Son sur franceculture.fr avec la réécoute, les commentaires, les références et les podcasts. L'Atelier du son est préparé et coordonné par Inès De Bruyne. La réalisation, c'est Véronique Lamandour. Et au son ce soir, il y avait Julien Douminc. Tout de suite, vous retrouvez Aurélie Charron. Bonne suite de nuit à vous sur France Culture et à vendredi prochain.
Merci Thomas, belle suite de nuit à vous. On vous retrouve vendredi prochain avec Stéphane Marin qui viendra parler de sa compagnie Espace Sonore. Dans les ateliers de la nuit, de la semaine qui suit, voilà ce que vous pourrez entendre. Mardi soir, dans l'atelier fiction, Neige de Yann Allégret. Un récit à la première personne en trois parties qui se rapproche de la structure en trois temps, Yo-Ha-Kyu, au Japon, présent notamment dans le théâtre No et les arts martiaux. Le narrateur s'arrête au bord de la route, à la sortie d'une ville, sous la neige, et contemple le paysage. Mercredi soir, Catherine Guillardy explore le sentiment de la colère. La colère que l'on peut garder sourde un moment, et puis qui finalement s'exprime et peut se révéler porteuse, créatrice, vivante. Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur. On sera en direct de 23h jusqu'à minuit. N'oubliez pas que tous les ateliers, ateliers fiction, création, intérieur, ateliers du son, sont à réécouter et à podcaster sur le site internet de France Culture. En attendant, il est minuit et dans un instant, vous passez avec Alain Weinstein du jour au lendemain.